le seul État où le camp Trump a déposé des recours. Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique. Trump a le droit de contester partout où il veut à partir du moment où il dit on arrête de compter ou on recompte. On arrête de compter et on recompte, ça se passe comme ça?
Alors de toute façon, on recompte systématiquement quand il y a moins de 1% d'écart entre les deux. Donc il n'y a pas besoin de faire des recours dans ces cas-là. Ensuite, oui, il peut déposer des recours et éventuellement ça pourrait être recompté, mais les responsables des États qui sont interviewés dans les médias avancent un très très grand nombre de garanties sur la manière dont le vote a été organisé, avec vraiment des poll watchers aussi de chaque camp, un peu comme en France en fait, où chaque camp surveille entre guillemets un peu les autres. Donc oui, il peut contester, mais ça risque d'être fastidieux. En plus, il demande de recompter, c'est pas très cohérent sa stratégie, parce qu'il demande de recompter dans le Wisconsin parce qu'il a perdu, mais arrêter de compter là où il est en tête. Mmh. Donc, c'est pas très cohérent.
Et ça peut durer longtemps ?
Oui, ça peut durer longtemps. Ça peut continuer après dans une bataille judiciaire qui n'ira pas forcément jusqu'à la Cour suprême, parce que la Cour suprême, c'est vraiment au bout du bout. Elle n'est pas obligée de se saisir des cas qu'on lui présente. Ça doit d'abord se régler au niveau des cours dans les États.
Il y a des juridictions voilà. Étatiques, c'est d'abord à ce niveau-là que ça se gère, c'est ça ?
Voilà, et puis la Cour suprême, elle est pas obligée de se saisir de tous les cas qu'on lui présente. Et puis elle a une certaine intégrité à défendre aussi. Elle n'est pas au service du président, hein. Même s'il y a une majorité conservatrice, elle n'est pas au service du président. Les juges sont nommés à vie, sont indépendants, ils n'ont aucun compte à rendre à Trump.
Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à peut-être à comprendre. Prendre en France, en tout cas ce qui est étonnant d'un point de vue français, c'est qu'on connaît la couleur politique des juges. Et ça n'influe pas sur leur choix, ça reste des juges avant tout ?
Si, ça influe parce que par exemple, Brett Kavanaugh, il y a quelques jours, Brett Kavanaugh qui avait été nommé par Trump a dit le Wisconsin ne pourra rien compter après le jour de l'élection. Mm-hmm. En avançant des risques de fraude, enfin c'est un peu... Les démocrates pensent que c'est une position un petit peu partisane, mais John Roberts, le président de la Cour suprême, c'est quelqu'un qui tient à sa réputation et à la réputation de la Cour. Il n'est pas a priori dans une posture partisane comme Kavanaugh ou d'autres peut-être.
Et donc je vous repose la question, est-ce que ça peut durer longtemps ? Est-ce qu'il y a une date limite ? À un moment on dit allez stop, on en arrête là et on choisit le président.
Mais oui, parce que le 20 janvier, quoi qu'il arrive, il faut que le nouveau président entre en fonction et avant ça, il faut que les grands électeurs aient choisi. Donc oui, il y a quand même un calendrier à tenir.
Ce qui est étonnant aussi, c'est de voir voilà, sur les chaînes de télé américaines, en direct, le dépouillement des bulletins. On voit un État qui dit j'en suis à 72%, 74%, 77%, 79%. C'est pas du tout comme en France. En France, on donne quand on en est à peu près au bout du bout. Quoi.
Oui, mais on pourrait le faire. C'est-à-dire, c'est une cuisine à la fois médiatique et politique qu'on pourrait faire. Le tableau magique assez génial de CNN. ça fait beaucoup d'envie dans notre pays.
Mais ça veut dire que il y a quand même une supervision. Ça veut dire que les médias sont en lien direct avec tous les bureaux de vote, ont les résultats au fur et à mesure. Comment ça fonctionne ?
Oui, compté par compté. Et puis il y a. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de votes en fait cette année. En cette année en particulier, il y a le early voting, c'est-à-dire les gens qui ont voté en avance dans les bureaux de vote avec les grandes files d'attente qu'on a vues. Il y a le vote par courrier, qui est très important, notamment en Pennsylvanie. C'est sans doute ça qui pourrait faire la différence, hein, faire basculer la Pennsylvanie en faveur de Joe Biden dans les heures qui viennent. Et puis il y a le vote le jour même. Donc c'est pas forcément les mêmes types de dépouillement, c'est pas forcément les mêmes personnes, c'est pas forcément dans les mêmes parties des bâtiments où ça se passe. Donc c'est intéressant d'avoir cette granularité. Quoi.
Et est-ce que le dépouillement est long aussi parce que il n'y a pas que la présidentielle. On sait qu'il y a plein de scrutins locaux qui ont été organisés. Parfois plusieurs dizaines, il y a des bulletins longs comme le bras, il y a plein de cases à cocher. Est-ce que c'est aussi pour ça que ce dépouillement aux États-Unis est si long ?
Alors il est long cette année pour deux raisons, mais il n'est pas si long quand même, hein, parce qu'on a quand même quasiment 24 heures après, on aura les résultats. On s'attendait à avoir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais c'est pas la tendance que ça prend à ce stade. Oui, il y a une partie des États qui choisissent, qui renouvellent le Sénat, leurs sénateurs, la Chambre des représentants est intégralement changée, renouvelée. Il y a les élections des shérifs, des assemblées locales, des gouverneurs dans certains États. Donc oui, c'est très très long à analyser. Mais ce que disent aussi les responsables locaux, c'est que dans les États conservateurs, les gouvernants ont refusé de donner des moyens supplémentaires aux équipes pour prendre en charge le vote par correspondance, pour le freiner un peu, parce que le vote par correspondance est plutôt un vote démocrate.
Oui, parce que ça aussi, il faut le préciser, peut-être le rappeler, c'est que en fait, aux États-Unis, chaque État organise son élection. C'est comme si en France, ça se passait au niveau des régions.
Oui, c'est une
avec des règles particulières.
Exactement, c'est une prérogative propre à un système fédéral. Et les Américains sont assez partagés. Il y en a qui trouvent que bon, c'est daté, et d'autres qui sont attachés à la liberté de chaque État. Donc, il y a des États où on continue à compter à recevoir des bulletins par correspondance et à les prendre en compte, et d'autres États où on a arrêté de les prendre en compte puisqu'ils sont arrivés après le 3 novembre.
Oui, on entend certains témoignages dire que les institutions aux États-Unis sont dépassées et que même la démocratie est en danger. C'est votre sentiment aussi ?
Elle est fragilisée, mais elle est surtout fragilisée après 4 ans de Trumpisme. Hein. Faut être clair, et on voit bien sa réaction aujourd'hui, qui est que dans la déclaration qu'il a faite hier matin, il veut qu'on arrête de compter les bulletins, de dépouiller les bulletins quand il est en tête. En revanche, quand il est un peu behind, il faut continuer à compter. Donc bon, vous voyez, c'est quand même des méthodes de dictateur. Hein. En démocratie, on voit ce type d'attitude, c'est absolument incroyable.
Vous avez l'impression que Donald Trump n'acceptera jamais une défaite ?
Alors là, si j'en crois les journalistes sur place américains, ils sont en train d'hésiter à la Maison-Blanche parce que ça va coûter quand même beaucoup d'argent de tout contester, beaucoup d'énergie. Son équipe voit que c'est quand même, la dynamique est quand même plutôt en faveur de Joe Biden. Même s'ils arrêtent les poursuites, ils vont pas jusqu'au bout. Lui, il dira toujours.
Qu'on lui a volé la victoire.
Voilà, j'ai perdu. C'est donc que les démocrates ont triché, je l'ai toujours dit, et je m'en vais la tête haute.
Il y a quand même un point positif, je trouve, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même, il y a une forte poussée électorale. Les gens sont allés voter. Quand on parle de cette démocratie que certains considèrent comme malade, là, c'est un signe que la démocratie fonctionne.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une énorme participation électorale, c'est un record.
160 millions, 67% de participation.
Ouais, c'est énorme. Mais cette participation, elle profite aussi à l'électorat trumpiste. C'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas que les électeurs de Biden qui sont mobilisés pour aller faire battre Trump. Certes, il y a une primo sortant, c'est-à-dire que le président sortant, il a une dynamique de voix, mais ça veut dire que le vote Trump, c'est un vote de soutien.
Et que 2016, ce n'était pas un accident de parcours ?
Non, moi j'ai toujours dit qu'il fallait prendre Trump au sérieux. Je ne suis pas la seule, mais voilà, on le considère comme un bouffon, comme quelqu'un qui est fou. Pas du tout, c'est un projet de société que je qualifie moi avec d'autres de néo-fasciste, avec une volonté d'un leadership qui est très dominateur, qui est très prédateur sur les autres, sur la planète, etc. Donc c'est un vote de soutien. C'est sans doute pas un vote si populaire qu'on le croit. Et donc, il faut le prendre au sérieux, non seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs en démocratie.
Marie-Cécile Nave, politologue, directrice de recherche à l'IRIS et invitée du 5-7 ce matin.